Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est très content d'être avec vous en ce mardi 5 mars 2024 pour parler de sport sur Radio G. Voilà, l'équipe d'habituel titulaire n'est pas forcément au complet aujourd'hui. Et oui, on passe le bonjour à Faustin et Clément qui nous écoutent peut-être du ski des montagnes s'ils ont un peu de réseau. Ils vont peut-être pouvoir donc écouter l'émission du jour. Ils seront sûrement de retour dès la semaine prochaine pour une émission dans laquelle nous recevrons notamment l'UFAB. Voilà un petit peu pour l'hommage à ceux qui ne sont pas présents ce soir, mais il y en a un qui est quand même bien là, c'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va?
Et salut à tous. Bah, écoute, ça va super bien, le retour.
Et oui, ça fait un petit moment que t'es pas venu.
Après deux émissions.
La mission qui était annulée la semaine dernière.
Ouais.
Et la semaine d'avant, t'étais pas là.
Ouais, les joies de commencer tôt ou de finir tard.
C'est
au
ça.
Boulot.
Exactement. Sinon, ton week-end s'est bien passé?
Bah écoute, ouais, week-end rapide, hein, parce que comme je travaillais ce week-end et avec dimanche, donc le Grand Prix pour moi c'était en replay.
Ok.
Et puis bah on a suivi un petit peu l'actualité de loin, comme si bon, il y avait événement de speedon aussi ce week-end, donc.
Ok.
Forcément, au marathon caritatif de speedrun, je suis toujours un peu plus que l'actualité sportive dans ces moments-là.
Évidemment, t'es focus.
Mais ouais, non, sinon. On se prépare surtout pour le gros week-end qui commence dès jeudi de MMA.
Eh oui, parce que c'est ce fameux combat entre Doumbé et Baki, si je ne m'abuse.
C'est ça, ouais, dès jeudi.
Pour le PFL. C'est ça.
C'est ça, ouais.
C'est jeudi.
C'est jeudi, ouais.
Ah ouais, je pensais que c'était ce week-end.
Non, c'est dès jeudi. En fait, on va enchaîner les gros combats tout au long.
Oui, il y en a un autre, mais c'est lequel?
Vendredi, je sais plus quel.
Mais je crois que c'est Poirier et Saint-Denis. Ce week-end aussi. Ouais. Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Je crois que c'est.
Je sais qu'il y a un gros événement. Ouais. Aussi samedi soir, enfin on va enchaîner 3 jours de... Mmh.
On en parlera d'ailleurs souvent la semaine prochaine. Dans cette émission, même si nous avons 2 absents, nous avons une table bien chargée, au sein de ce studio de Radio G, puisque nous recevons le club de l'Étoile en Yankees. Et oui, parce qu'avant on recevait donc les Yankees d'Angers, mais depuis cette saison, eh bien on doit dire l'Étoile en Yankees. Évidemment, avec ce partenariat récent avec l'Étoile Angers Basket. Nous recevons donc 4 membres donc du club qui pratiquent d'ailleurs donc les 3 disciplines couvertes par le club de l'Étoile Angers Yankees. Nous recevons donc Elisa. Bonjour Elisa. Ah, excuse-moi, c'est ma faute, c'est le micro.
Il Bonjour. Débute, hein, c'est son émission de reprise aussi.
Oui, ça fait longtemps.
Bonjour.
Bonjour. Loïc, si je m'abuse. Donc voilà, micro
c'est
rouge.
Bien ça.
Loïc, bonjour à toi.
Bonsoir.
Et Thomas également qui est avec nous.
C'est ça, bonsoir.
Et puis enfin, Julien, pour terminer.
Bonsoir.
Donc, pour rappeler, on passera à l'interview après les actualités. Mais donc, on a 2 joueurs de football américain. Donc, Loïc et Julien. Et nous avons... un joueur de flag, Thomas, et Elisa qui fait donc du cheerleading.
Tout à fait.
Voilà, donc on reviendra sur les 3 disciplines couvertes par le club un peu plus tard dans l'émission, et puis voilà, on parlera des résultats des différentes équipes un peu plus tard. On va commencer sans plus tarder avec les actualités locales. On va parler en premier lieu du SCO hein, qui hier jouait un match important contre Ajaccio à domicile, une victoire 3-1 obtenue contre donc le club corse d'Ajaccio. Premier but d'Abdelli sur penalty à la 28e minute, égalisation d'Ibaï pour les Corses avec ce but à la 38e minute, et enfin un match, c'est l'entrant Le Paul qui délivre le SCO en marquant à la 87e et en délivrant une passe décisive pour Diony à la 90+4. Il s'agit de la première victoire depuis le 2 février, c'était contre Rodez, et c'était surtout après 3 défaites de suite sans marquer, Cédric. La deuxième place ainsi est confortée, hein, avec 4 points d'avance sur Laval. Et voilà, c'est une victoire qui fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien pour les Angevins.
Ouais, il fallait quand même réagir parce que bon, on l'a même un petit peu dit, hein, que ça pouvait être compliqué très rapidement, surtout depuis la défaite contre Auxerre. Les derniers matchs donnaient pas forcément envie de suivre. Je les ai trouvés un peu moins dedans pendant les 3 matchs. Là, au moins, il y a eu une bonne réaction à domicile.
C'était important.
3-1, donc ouais, c'est pas mal. Après, va pas falloir trop de faire match nul, hein, je pense, pour au moins espérer jouer les playoffs. Hein,
justement, au niveau des matchs nuls, c'est intéressant que t'en parles, parce que du coup, Angers, en étant 10e, reste quand même l'équipe qui a le plus gagné en Ligue 2, mais elle a autant perdu, notamment, que des équipes de milieu de tableau.
Ouais,
et seulement 4 matchs nuls, donc pour les Angevins. C'est un peu tout ou rien du côté du SCO.
Parce que là, c'est quand même serré entre les...
Bah, ce qui arrive derrière, ouais.
On va dire au moins les cinq qui sont en tête.
5, et puis même derrière, tu peux aller jusqu'à la 12e place pour voir des équipes qui sont pas très loin.
Ça peut remonter très très vite.
Des places pour les playoffs. C'était le retour de Thomas Mangani, notamment à Angers, ou encore Mathieu Michel qui était dans les buts d'Ajaccio. Et c'était, j'y ai pensé, mais c'était environ 1 an après la défaite contre Ajaccio, donc c'est contre cette même équipe d'Ajaccio, à Raymond Coppa, et c'était celle du record de défaite. Je sais pas si tu te souviens, Cédric, où on avait donc perdu, et c'était le fameux record de défaite d'affilée en Ligue 1. Et c'était, je trouve ça beau que, voilà, 1 an plus tard quasiment, on puisse savourer une victoire et en plus une 2e place en Ligue 2. C'est quand même beau symboliquement.
Oui, ce qui prouve qu'il y a eu beaucoup de travail. En si peu de temps quand même au final.
Exactement. on a su rebondir très très vite. Le prochain match du SCO, ce sera contre Valenciennes samedi à 19h et ce sera donc chez le demi-finaliste de Coupe de France qui affrontera Lyon en demi-finale. Et donc ce sera quand même une équipe, même si c'est une équipe de bas de tableau, une équipe à redouter pour les Angevins.
Ouais, mais se méfie. Du coup, il y a la Coupe de France à préparer, mine de rien.
On verra si le SCO peut aller chercher 3 nouveaux points. On va maintenant parler un peu de basket, puisque Faustin n'est pas là, je m'y colle comme à l'époque. Le AB a gagné ce week-end contre Paula Cortez, 83-79. C'est la sixième victoire de la saison, la première depuis le 30 janvier dernier. Le AB n'est plus qu'à 2 victoires de sortir de la zone rouge, même s'ils sont toujours actuellement donc dernier de cette phase régulière de Pro B, et donc provisoirement relégué en N1. Dans les prochains matchs, ils seront très importants. On aura la réception du leader de Pro B La Rochelle vendredi et un déplacement à Évreux très important dans 10 jours puisque Évreux est un concurrent direct pour ce maintien. Voilà pour le AB. L'UFAB qui a également gagné du côté de Latte Montpellier, victoire 82-62, une belle victoire pour les Angevines. Ça, il s'agit d'ailleurs de leur deuxième de suite. L'UFAB qui repasse donc devant Charleville-Mézières au classement et qui réintègre le top 8 et une potentielle place en play-off qui peut être très intéressant. On sait que c'est ce que cherche le AB et ne pas passer par ces phases de play-down. Il reste seulement 4 matchs dans la phase régulière, avec donc encore à affronter Bourges, Roche-Vendée, Charleville-Mézières et Tarbes. Donc voilà, 3 équipes notamment qui vont se disputer ce dernier ticket pour les playoffs. Au niveau de Cholet Basket, alors oui non, UFAB, autre info, tu m'en parlais en off, la prolongation pour un an de plus de Aurélie Baudin, qui va rester donc jusqu'en 2025, si je ne m'abuse.
2025, oui.
Du côté de d'Angers et qui continuer son parcours, son bon travail du côté de l'UFAB. Pour toi, c'était un choix important à faire rapidement.
Bah, c'est bien que ce soit fait avant les playoffs. Enfin,
ouais, comme ça, il n'y a pas de pression pour
avant
elle.
La fin de la saison régulière.
Ouais.
Voilà, au moins ça sécurise s'il y a une playoff. On sait que voilà, t'es sûr de garder ton entraîneur la saison prochaine. Et puis, et là, si ça devait jouer les play-downs, au moins tes joueuses elles savent que l'année prochaine elles gardent la même coach et ça peut, en cas de descente, ouais, voilà, créer un effet. Bon, bah, on sait avec qui on sait comment on a été et tu peux insuffler une énergie très rapidement pour remonter.
Donc voilà.
C'est un bon choix, je pense, oui, d'avoir confirmé dès maintenant.
Ouais, un très bon choix, un très bon timing, je pense aussi.
Surtout avec les petites rumeurs qui courent depuis quelques semaines sur un départ qui pourrait être important quand même du club.
On ne dit pas qui ?
On peut le dire. On
dit, bah, dis-le alors. Tu nous mets l'eau à la bouche.
Léa Lacan qui pourrait
évidemment,
peut-être...
Évidemment, très prisé, évidemment.
Partir comme beaucoup de joueuses récemment.
La joueuse de née en 2004, je ne sais pas si elle va avoir 20 ans cette année ou je ne sais pas c'est si ça. Elle a eu. Mais ça va être un dossier à suivre évidemment.
On va peut-être retrouver certaines de ses anciennes coéquipières de l'année prochaine, enfin de l'année dernière.
Ah oui, du côté de Basketland peut-être.
Peut-être, oui. Il y a des petits bruits comme ça.
Elles vont nous piquer toutes nos joueuses, ça va être super.
on verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas ça commence déjà à courir dans les coursives.
Très bien. Bah, on espère que l'UFA va pouvoir conserver sa joueuse peut-être une saison de plus, même si évidemment ça risque d'être compliqué. On va parler maintenant de Cholet Basket avec une nouvelle victoire aussi pour les Choletais. Victoire à la MRS ce week-end, 71-67 contre le CSP à Limoges. Au niveau du classement de Betclic Elite, les Choletais sont actuellement 9e, ce qui est plutôt pas mal parce qu'ils sont également à égalité avec 4 autres équipes, dont le 6e du championnat. Il y a également un match de Ligue des Champions. C'est la deuxième phase de Ligue des Champions de basket. Avec donc ce match demain contre Tofas, le club turc, et donc ce match a bien négocié pour les Choletais qui sont actuellement 3e de leur poule. Et enfin samedi il y aura un match contre Bourg-en-Bresse. Voilà pour le basket. On va pouvoir passer maintenant au Duc d'Angers. Et oui, Cédric, c'est un tournant un petit peu dans la saison. C'est un virage à 180 degrés, si je puis dire, avec cette fin de saison régulière qui s'est terminée par deux victoires hein, pour les Ducs. Un succès 3-1 contre Grenoble, donc plutôt pas mal. Et également une belle victoire 5-1 contre Chamonix pour terminer donc à 101 points. Deuxième de Ligue Magnus, les Ducs affronteront Cergy Pontoise au premier tour de play-off, le premier match de la rencontre qui aura lieu.
Avec donc, l'avantage des deux matchs à domicile. Ouais.
C'est ça, l'avantage du terrain, de la patinoire même. Donc premier match vendredi à l'Ice Park à 20h30. Voilà pour les Ducs. Cédric, comment tu les sens? On a bien terminé cette phase régulière.
Ouais,
les choses sérieuses arrivent, quelque part.
Bah, on repart à zéro, de toute façon. On repart à zéro pour les playoffs. On va être tous au même niveau. Et puis, je pense que ça va être la motivation et l'envie qui va un peu diriger, je pense, cette équipe en juin, qui a eu quand même pas mal de soucis tout au long de la saison. Je dirais peut-être en termes de résultats, faudrait regarder par rapport à la saison dernière. J'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu en deçà en termes de victoires.
Moi, je dirais plus.
Ouais, tu vois. Mais
parce que je me souviens pas qu'on ait passé les 100 points l'année dernière.
Non, tu sais,
je crois qu'on termine troisième déjà.
L'année dernière, on finit troisième, oui.
Donc ça reste un meilleur résultat.
Bah, tu vois, le podium, je trouve que la deuxième place est très belle. Et elle va forcément normalement aider pour continuer. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de hauts et de bas dans cette saison. Alors il y a eu les blessures, il y a eu les suspensions aussi qui ont fait du mal.
Notamment Gaboré, ouais.
Ouais, ouais. On a notre gardien titulaire aussi qui s'est pas mal blessé. On s'est quand même retrouvé pendant un moment avec deux gardiens blessés titulaires. Heureusement qu'on a eu un jeune, voilà, qui a su faire ce qu'il fallait faire pendant quelques matchs. Donc en soi, c'est encourageant quand même parce que voilà, la deuxième place est là. Mais attention, ça va. Là, je pense que ça peut être jouable le premier tour. Peut-être pas le 4-0, je pense pas. Ouais. Mais derrière, bah, faudra voir qui on prendra si on se qualifie. Bien sûr.
C'est Grenoble et ce sera soit Grenoble, soit une autre équipe. Enfin, du coup, l'adversaire de Grenoble, mais je l'ai pas en tête. Peut-être. Il y a Marseille qui s'est qualifié.
Il y a Marseille qui s'est qualifié, ouais, aussi.
Bon,
qui...
on suivra ça, mais en tout cas, ça peut être Grenoble qui reste favori quand même de sa confrontation.
Et en cas de qualification, pareil, on aura encore l'avantage
terminer deuxième. Exactement, on va terminer les infos locales avec le SCO Handball et cette nouvelle défaite 37-25 contre Cherbourg à domicile. Il faut savoir que dans cette journée de Pro League, Caen a également gagné et les Angevins sont donc maintenant à égalité avec les Normands pour cette place en relégation. Il y a un match donc très important à négocier à Besançon la semaine prochaine. Il faut savoir que le SCO n'a plus gagné depuis le 10 novembre dernier, donc quasiment 4 mois sans victoire. Il y a eu 2 matchs nuls entre-temps, mais voilà, le SCO qui n'arrive plus à gagner, qui arrivait à se mettre dans le ventre mou au début de saison et qui là aujourd'hui va devoir batailler pour son maintien. Et on souhaite donc voir le SCO quand même se maintenir du côté de la Pro League.
On a un petit peu l'habitude, hélas, avec le hand où c'est vrai qu'il y a une saison où tout va bien et une saison qui est un peu moins bien. Et
mais comme je disais aux gars, parce que on parlait donc de la projection pour l'année 2024, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'ils jouent à ce point le maintien, en tout cas que ça s'effondre comme ça. Donc on verra si y a encore d'autres enjeux à jouer pour le SCO sur la fin de saison. On va passer maintenant au niveau international. On parlera du match de Ligue des Champions parce que c'est vrai que j'ai pas forcément fait le sommaire. On essaiera de trouver 5-10 minutes en fin d'émission pour parler un petit peu du match de ce soir entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Au niveau de la Ligue 1 et des résultats de ce week-end, le PSG du coup a fait 0-0 contre Monaco. On reparlera peut-être, Cédric, si on a le temps du fameux Kylian Mbappé, même si on en parle potentiellement beaucoup dans l'émission.
Qui sera titulaire ce soir, hein. On va déjà spoiler la compo.
Voilà. Ah super, voilà, tu spoil l'émission. Match nul 0-0 entre Monaco et Paris. Samedi, c'est Lille qui s'est imposé du côté de Reims. Également, le dimanche, on a eu le droit à plusieurs matchs. Alors le samedi à 21h évidemment, il y avait Marseille qui s'est imposé 5-1 contre Clermont. Marseille qui revient bien dans les places européennes. Toulouse qui a battu Nice 2-1, match nul 2 partout entre Montpellier et Strasbourg. Metz bat Nantes 2-0. Brest gagne contre Le Havre 1-0. Lorient s'offre le derby de Bretagne contre Rennes 2-1. Et Lens bat tranquillement Lyon 3-0. Et au niveau de la Coupe de France, on aura donc les affiches Valenciennes-Lyon et le vainqueur de Nice-PSG contre Rennes. Pour la Ligue des Champions, donc on en reparlera en fin d'émission. Petit mot également, on va changer de sport, on va parler de rugby à 7 puisque la France a gagné hier, si je ne m'abuse, les World Series donc à Los Angeles. C'est la première fois depuis 2005 que les Français gagnent donc cette étape des World Series. Et dans cette équipe, il y a un certain Antoine Dupont qui donc voilà pour ses premières compétitions connaît pas mal de succès, même si évidemment l'équipe ne tourne pas autour de lui.
Non, il doit encore s'adapter. Il était même pas titulaire.
Il n'est pas forcément tout le temps titulaire. Mais ça me permet d'avoir une petite transition toute trouée, puisqu'on n'était pas là la semaine dernière, pour parler de rugby à 15 et donc de la défaite du du match nul qui est pour les experts du rugby est vécu comme une défaite contre l'Italie. Voilà, c'est vrai que je sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce que t'as pu voir le match ou pas forcément ou même
Non.
Mais au niveau du résultat, qu'est-ce que ça t'inspire ce match nul?
Je vois pas comment on peut. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour le rugby italien, je vois pas comment on peut se retrouver à faire un match nul contre eux, quoi.
Ouais.
Normalement, on est largement au-dessus depuis des années, mais c'est à l'image de toute façon de ce tournoi destination. Hein. On a été chercher des réservistes de la saison passée qui n'étaient pas motivés pour jouer la Coupe du Monde, puis ils le font payer. On retrouve pas une équipe de France. Et autant sur le premier match, on savait que ça allait être dur contre les Irlandais qui avaient vraiment tout à prouver. On rentre pas dedans. On pouvait dire, ok, il y a le traumatisme encore de la Coupe du Monde, mais là, il n'y a plus d'équipe. Et encore, ils tenteraient des choses en faisant des changements, en faisant venir des moins de 20 ans, enfin, qui sont champions du monde, on pourrait tester, on pourrait dire, on a testé, on se plante. Mais là, il n'y a rien,
C'est très décevant par rapport aux attentes qu'on avait sur le mondial. C'était il y a moins d'un an.
J'ai l'impression que c'est habituel aussi, parce que quand c'est tu regardes, après chaque bonne Coupe du Monde de l'équipe de France, généralement, il y a un creux derrière pour. Ouais. Mais là, c'est plus qu'un creux,
c'est les montagnes russes, parce qu'on parle de favoris à la Coupe du Monde, ultime, on va les gagner, c'est sûr. Et puis, là, on se retrouve.
Parce que là, on est quatrième, je crois, du Six Nations actuellement.
Quatrième, on a cette défaite contre l'Irlande, on a cette victoire à l'arraché contre l'Écosse.
Oui, et encore.
C'est à l'arraché.
On peut vraiment.
Et il reste, l'Angleterre et le Pays de Galles à affronter.
Ouais. À mon avis, l'Angleterre, ils vont nous rouler dessus, s'ils gardent ce niveau-là.
Bon, on verra ça. Dernier petit mot sur l'actualité.
Pays de Galles, d'ailleurs, ce week-end.
C'est Pays de Galles, donc ce week-end. Ouais, très bien. Dernier mot sur l'actualité, Cédric, puisque j'étais sous la main. C'était la reprise, tu le savais, de la Formule 1.
Ouais.
C'était ce week-end.
Exceptionnellement samedi, oui.
Max Verstappen a gagné. Quelle surprise. Comme l'année dernière. J'ai l'impression de refaire toutes les saisons de 2020.
Il y avait son coéquipier. Ah, derrière.
Très bien.
Et là, ça change.
Donc, tu m'as dit, tu as un peu regardé en replay le.
J'ai regardé un petit peu en replay, rien à dire de précis, il s'est rien passé. Le seul événement, c'est que toutes les voitures ont fini la course.
Très bien.
Après, sur les essais.
Rapidement, parce qu'après, il faut.
C'était intéressant parce que, au moins, il n'y a pas une grosse dominance sur toute la. Les trois essais libres. Donc, au moins, ça pouvait être intéressant. Alpine, je sais pas où ils ont développé la voiture, mais pour l'instant c'est mal barré.
Ok.
Donc déjà des gens virés là-bas, donc
ça va être compliqué.
L'écurie française cette année.
C'est ça.
J'ai un peu peur.
On verra ça pour nos deux pilotes français, Ocon et Gasly. On va pas faire de pause musicale puisque le temps nous est compté. Il est déjà 20h24 et le temps file. On va passer à l'interview avec nos quatre invités du jour. On va parler donc de l'étoile Angers Yankees avec donc, je le rappelle, dans les studios Elisa Loïc, Thomas et Julien qui sont avec nous. Cédric, Je te laisse la poser, mais du coup, ils sauront déjà la question. Peut-être la première question qu'on pose souvent dans l'émission, le parcours et surtout, peut-être l'arrivée dans le club.
Oui, puis on peut enchaîner directement sur une autre question. C'est pourquoi à nouveau un changement de nom de l'équipe et qu'est-ce que ça a apporté justement
Peut-être d'abord chacun se présente.
Oui, non, mais
son arrivée. On commence peut-être par Elisa. Donc quand est-ce que tu es arrivée aux Yankees?
Moi, ça doit être ma sixième année là de cheerleading chez les Yankees. Okay. Du coup, j'ai rejoint un peu l'équipe par hasard et je suis un peu l'évolution du cheerleading au sein du club et c'est plutôt plaisant à voir vu le tournant que ça prend.
Très bien.
Voilà.
Loïc.
Eh bien moi, je viens d'arriver. C'est ma première saison en déménageant de Paris à Angers. J'ai souhaité rejoindre un club de football américain et je suis très content de rejoindre ce club.
Très bien. Et donc, t'en faisais depuis combien de temps avant?
Je fais du football américain depuis un moment, depuis une vingtaine d'années. Donc,
Beaucoup d'expérience.
Exactement. Non, mais j'ai commencé il y a un paquet d'années par le flag football et, et j'ai logiquement continué avec le football américain en région parisienne.
Eh ben, en parlant de flag, Thomas, donc toi, tu fais du flag et je crois que t'étais dans l'équipe de football américain avant, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Je suis arrivé en 2012-2013. J'ai commencé avec l'équipe en cadet. Cadet, junior, senior. Et puis après, avec quelques blessures, j'ai passé sur le flag football. Et puis, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis.
Très bien. Donc, voilà. On parlera peut-être un peu des résultats plus tard. Et on termine par Julien, donc membre de l'équipe de football américain.
Oui, moi, ça fait 10, 12 ans. Je suis quasi un des plus vieux maintenant. Après, Loïc me laisse de la marche sur ça, donc ça va, c'est cool.
Petite pique en direct.
Ah, c'est ça. Et donc, je fais partie des anciens du club parce qu'il y a un sacré renouvellement. Depuis 10-12 ans, j'ai vu les anciens partir. Après, il y en a encore qui sont là, hein, bien sûr, qui permettent d'hériter des traditions, on va dire, et qui supportent le club. Mais voilà, et moi, j'ai joué tout le temps au football américain.
Très bien.
Je vais aider les autres sections quand il y a besoin.
Ouais.
Quand c'est vraiment la dernière solution. Mais sinon, non, pas d'autres sections.
Du coup, sur la question que tu voulais poser, Cédric, est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui saurait donc expliquer, qui aurait été peut-être proche un peu du club, enfin des dirigeants du club, pour voir ce qui a changé, comment ça s'est fait, donc ce changement de nom de l'Étoile Angers Yankees.
Oui, puisqu'on est passé du SCO Yankee, du coup, à Étoile Yankee.
Qui est donc, et qui faisait, donc les Yankees Angers, qui faisait partie du SCO Omnisport, pour rappel.
C'est ça.
Julien?
Oui, bon, ça me dérange pas. Hein. En fait, ça part d'une volonté de l'EAB, tout d'abord, qui s'est rapproché de nous, pour nous proposer un collectif autour du sport américain, autour des sports américains. Et, le président Florent Aymard, et le président d'honneur, Pascal Corben, et Big Ben, comme on l'appelle, mais Benoît Dabrigeon aussi, on en a longtemps discuté avec le AB sans que nous on soit au courant, de manière tout à fait justifiée, parce que c'était encore la genèse du projet. Et après, il y a eu consultation, justement, de membres plus anciens du club, dont moi, mais aussi plus jeunes, pour que il y ait un commun accord entre les différentes vagues d'intentions qu'il pouvait y avoir dans le club. Et on a tous été d'accord sur le fait de il n'y a pas d'aspect négatif par rapport au SCO, hein, on est parti en très bons termes avec eux et au contraire ils nous ont supportés dans cette décision là c'était simplement pour essayer de faire quelque chose de nouveau,
de développer le club.
Pardon,
de développer aussi le club.
Oui, de développer le club, de faire quelque chose de nouveau, de chercher une nouvelle dynamique et une nouvelle identité aussi. Parce que le SCO, il y a beaucoup de clubs. C'est une très grande entité, le SCO à Angers. Ouais. Ça regroupe énormément de sports et peut-être quelque chose qui se rapprochait plus de ce que nous on voulait comme identité. Hein.
Ouais, surtout sur le côté américain, comme tu disais.
C'est ça, exactement.
Sur les sports américains. Sur ce point-là, Cédric, est-ce que tu as une autre question sur toi déjà? On en avait parlé, mais qu'est-ce que tu en penses de vouloir regrouper les sports américains?
Dans l'idée, c'est intéressant. Parce que bon, ça peut ouvrir des portes. Voilà, on sait que par exemple, les shows au basket, ça repose aux États-Unis sur tout ce qui est soit cheerleading, soit pom-pom girl là-bas. Et c'est vrai que bah, pour un club comme les Yankees, qui ont une section qui commençait à bien se développer depuis qu'elle est créée, avec les résultats qu'il y a eu entre-temps, c'est vrai que c'était, par exemple, un bon endroit, je trouve, pour être présent et peut-être avoir plus de rendez-vous aussi en dehors des tournois ou des choses comme ça, quoi.
Ouais, c'est intéressant. On va maintenant donc parler. On va faire un petit focus sur les différents, les différentes, comment dire, les différentes
sections.
On va commencer par la discipline du cheerleading. Alors bon, voilà, on a reçu les Yankees pas mal de fois dans l'émission, mais on va faire un rappel pour nos nouveaux auditeurs. Elisa, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment se en quoi consiste cette discipline du cheerleading?
Oui, tout à fait. Alors, le cheerleading, c'est un sport qui vient des États-Unis, comme on l'a dit, qui est fait à base de portée, d'acrobatie, de gym au sol, qu'on appelle le tumbling, et un petit peu de danse.
Donc voilà, ça s'éloigne un peu de l'idée reçue des pop-up girls, comme disait Cédric. C'est vrai que c'est une discipline qui est avant tout artistique, c'est ça?
C'est ça, qui est sportive et artistique.
Oui, c'est sportive, évidemment.
Et
donc, toi, tu disais, ça fait 6 ans.
Ça doit être ma 6e année, oui.
Très bien. Au niveau des résultats, je crois qu'il y a des compétitions, c'est ça?
Oui.
Et comment ça se passe un peu cette saison du côté du cheerleading?
Même la saison dernière.
Oui, parce qu'on les avait reçus.
On les avait reçus je crois, avant vraiment les grands rendez-vous.
Près dans la même période, je pense. L'année dernière, on avait une équipe compétition de niveau 2 chez les seniors, de niveau novice chez les juniors et les minis. Les trois équipes se sont présentées aux qualifications du championnat de France de cheerleading. On a fini troisième avec les seniors. J'ai plus exactement le classement en tête des juniors et des minis, mais qui ont fait des performances tout à fait honorables. Cette année, on est de nouveau les trois équipes engagées en compétition. On se présente en niveau 1 avec les seniors, les juniors et les mini. Compétition qui aura lieu à Nantes le dimanche 31 mars. Donc la préparation suit son cours. On a notre show-off dimanche, le dimanche 10 mars, là, de 16h à 18h. L'occasion pour toutes les équipes de s'entraîner à passer devant un public, de pouvoir montrer un peu à quoi pourra ressembler leur routine devant les parents, les amis, les familles, tout ça. Et donc, c'est la première grosse date qui arrive là, c'est dimanche, pour préparer la compétition du 31 mars. Et on espère se qualifier pour les finales des championnats de France qui auront lieu au mois de juin.
Mais du coup, il n'y a pas eu de qualification, malheureusement?
Non, on n'a pas été qualifié pour participer à la finale.
Très bien. Un peu de déception ou non, c'était
côté mini et junior, pas de déception parce que
c'est pas de la compète.
C'était une compétition pour eux.
Oui.
Compétition qui s'est très bien passée pour les deux équipes. Un peu de déception côté senior parce que on n'était pas aussi près que ce qu'on aurait aimé. Okay. On n'a pas eu l'occasion de présenter vraiment ce qu'on était capable de faire et donc c'est un petit peu la petite frustration qu'on a. Mais qu'on a pu plus ou moins rattraper avec le gala qu'on a organisé au mois de juin, fin juin dernier. Gala où, pareil, il y avait une représentation de toutes nos sections, section loisirs aussi, et où on avait invité d'autres clubs voisins à participer à notre gala. Donc c'était un truc très convivial où toutes les équipes qu'ils souhaitaient pouvaient présenter une routine. Sans qu'il y ait de conditions de niveau, sans qu'il y ait de compétition. Ouais. Et c'est quelque chose qui sera reproduit cette année. On organise en ce moment notre deuxième gala.
Okay.
Pour le 23 juin.
Ok. Et ça se passe où, du coup?
Ça se passe sur Angers. Cette année, ça se passera normalement à la salle Jean Monnet.
Ok. Très bien. Voilà. Donc, voilà pour les événements à suivre du côté du cheerleading. Cédric, est-ce que tu as des questions?
Je trouve que le résultat est quand même intéressant, surtout sur les jeunes sections, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'elles sont développées.
Oui, c'est tout récent.
C'est ça, c'est un an ou deux de mémoire. C'est...
Oui, 2 ans. C'est
ça. Donc, c'est quand même bien que voilà, ça monte progressivement, ça montre que y a de l'engouement aussi. Tant qu'elles perturbent ces sections-là, puis Bah, je pense que le leitmotiv cette année, ça va être pour les seniors de, voilà, d'aller prouver ce qu'ils n'ont pas pu faire. Je pense que dès que le début de saison a été ouvert, en termes d'entraînement, ça a été un peu ça l'idée. C'est, on repart sur ce qu'on a fait l'année dernière et on y va à 200% parce qu'on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on va aller.
C'est ça. On est vraiment dans un but de montrer ce qu'on est capable de faire et de pouvoir être fier de ce qu'on présente. Ouais.
Et en termes d'adhérents, que ce soit chez les plus jeunes ou chez les seniors, il y a eu un engouement depuis l'année dernière
oui,
avec un peu plus de monde qui est arrivé.
On avait déjà une section mini qui était pas mal développée avec environ 20 adhérents l'année dernière. On est entre 15 et 20 cette année aussi. Par contre, notre section junior a connu un gros développement où on a aussi une vingtaine d'adhérents cette année, alors que l'année dernière, on était peut-être à la moitié. Je sais plus exactement, mais y a beaucoup de nouvelles personnes chez les juniors. Donc c'est plutôt une grosse section cette année et qui est très prometteuse.
Et c'est pas trop dur justement d'avoir, surtout sur des jeunes catégories comme ça, d'un coup avoir beaucoup plus de monde. Ça demande d'avoir plus de créneaux pour eux ou...
forcément plus de créneaux, mais plutôt s'adapter en fonction du nombre d'athlètes, en fonction du coaching qu'on a. Cette année, ils ont un entraînement par semaine le jeudi soir et qui est ponctué de stages à quelques moments le week-end. Oui, voilà, des stages de plusieurs, de 2-3 heures selon le moment.
D'accord. Très bien. Donc voilà pour le cheerleading. On va passer maintenant à une autre discipline, en plus du football américain, donc de l'étoile Angers Yankees, avec le flag, donc avec Thomas qui fait partie donc de l'équipe. Thomas, est-ce que tu peux pareil rappeler un peu à nos auditeurs le principe du flag et la différence qu'il y a par rapport au football américain?
Bah, du coup, le flag football, c'est un dérivé. C'est du sans contact et c'est un sport mixte. Et puis, ça se joue de 4 contre 4 jusqu'à 9 contre 9. Et très puis, pas le recontact et des choses comme ça.
Par rapport, justement, toi, ton parcours dans le flag, tu nous as dit, c'est il y a 3-4 ans.
Ouais,
c'est ça que t'as commencé le flag. T'as déjà un peu évoqué les raisons, mais en gros, peut-être pour éviter justement ce côté contact.
Ouais, aussi, puis aussi avec les copains de l'équipe, on s'est dit qu'on allait lancer le flag au club, qui était pas très présent. Puis au final, ça a payé, car on a fait des tournois vers Basse-Goulaine, et puis on a toujours été sur le podium entre copains en se marrant, toujours dans une bonne ambiance, et puis bah, se marrer, ramener des trophées, c'est cool, quoi.
Ouais, c'est toujours une bonne expérience. Pareil, au niveau des saisons et des résultats, l'année dernière, comment ça s'est passé pour vous?
Alors en gros au flag football il y a le championnat D1 et le championnat D2.
Ok.
Et en gros pour participer au championnat D1 il faut avoir une équipe mixte avec deux filles et obligatoirement donc une sur le terrain qu'on n'avait pas.
Ok.
Et du coup on est resté en D2. Cette année c'est l'objectif. On a réussi à réunir des filles pour jouer avec nous et puis du coup bah on va essayer d'aller chercher les playoffs.
Très bien. Cette année du coup la saison commence quand?
Là, ça a commencé. Là, il y a eu la première journée de championnat de France ce week-end.
Très bien.
Moi, j'ai pas pu être présent à cause du travail, mais ils ont fait de bons résultats, une victoire, un nul et deux défaites.
Très bien. Et donc, dans le championnat de division 1, c'est ça?
D2, et on vise la V1.
Oui, pardon. Ok, très bien.
On a pu s'entraîner en faisant des tournois indoor avec 4-5 équipes pendant l'intersaison, on va dire.
Très bien. Et du coup, tu disais au niveau plaisir sur le terrain, tu disais tu jouais au début avec les copains. Comment toi justement ce rapport à ce sport-là a évolué? Est-ce qu'il y a un peu plus de compétition maintenant?
C'est ça. Bah comme le flag football commence à être beaucoup reconnu en France,
okay,
tous les gars de l'équipe pendant les intersaisons viennent pour avoir des match-up pour s'amuser aussi. Et puis du coup, on se donne à fond quoi. Le côté compétition est beaucoup présent. Comme là, il y a eu un événement sur Paris, NFL Flag, qui a été organisé pour la première fois, où c'était toutes les catégories minimes cadets. Et en gros, les vainqueurs de ce tournoi-là ont pu aller aux États-Unis pour faire un énorme tournoi. Les Caïmans du Mans ont gagné, du coup.
Très bien.
Et puis voilà.
C'est intéressant. Justement, sur l'expansion un peu de la discipline, comment toi au club tu ressens l'évolution c'est ça du sport ouais. Comment tu la ressens au niveau du club, est-ce qu'il y a plus de licenciés, d'engouement?
Ouais carrément, ça évolue très bien et puis les résultats amènent beaucoup de gens et du coup beaucoup de jeunes commencent à signer. Okay. Et puis en senior, bon, là on est une quinzaine, ça peut paraître peu mais du coup ça commence à être beaucoup pour certains clubs.
OK.
Et puis comme je l'ai dit, il y a même plusieurs filles qui commencent à arriver et ça c'est encore mieux quoi, c'est vu que c'est un sport mixte.
Ouais, ça vous permet en plus du coup comme tu le disais de pouvoir un jour peut-être aller en D1, c'est ça?
Ce qui est l'objectif cette année toujours. D'ailleurs.
Exactement. Donc, voilà. Et donc voilà, c'est vrai, est-ce que tu as des questions sur le côté flag?
Non, t'as déjà répondu un peu sur l'évolution de l'équipe. C'est dans la continuité. C'est vrai que le flag, il a cette particularité, c'est que comme il n'y a pas de contact, si on est plus ou moins âgé, il y a moins cette peur de se dire, au premier plaquage, je vais y rester, je vais me retrouver blessé. Tandis que là, c'est vraiment que c'est plus accessible, en plus, quand on connaît pas le football américain. C'est vrai que c'est une porte, ouverte très facilement à tout le monde et souvent il y en a qui passent de l'autre de l'un vers l'autre, donc c'est vrai que les deux sont complémentaires je trouve au final et c'est bien quand à un moment quand t'as envie de te poser un peu plus mais toujours en pratiquant ce côté jeu que t'as pas dans d'autres disciplines où t'as pas le choix à partir du moment où tu t'arrêtes, t'as pas d'alternative et je trouve que le flag c'est vrai que c'est une belle alternative pour celui qui veut continuer à pratiquer le football américain, mais d'une autre façon, plus adapté.
Ouais. On va dire ça un peu pour les fins de carrière ou même pour les jeunes.
Ouais,
ceux
ouais,
qui veulent
ouais.
se lancer, les fins de carrière, on va dire un peu les blessés ou même pas les blessés, c'est un sport comme un autre, donc.
C'est ça, le score.
Et du coup, justement, tu ressens plus de gens qui sont là plus du football vers le flag, ou est-ce qu'il y a des gens qui, comme disait Cédric, un peu découvrent le football américain par le flag et du coup, après, sont intéressés par le football, ou c'est encore un peu rare?
Là, on a eu l'année dernière et cette année, on a eu 3-4 nouveaux. Sinon, c'est plus des anciens équipés ou même les deux. Parce que moi, j'ai commencé en faisant les deux.
Ok.
Et puis, il y a de plus en plus de monde, donc c'est cool.
Tant mieux. On va passer maintenant à l'équipe de football américain avec donc Loïc et Julien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux parcours différents au sein du club.
Peut-être deux postes aussi différents.
Voilà, peut-être qu'ils vont nous expliquer. Je vais peut-être commencer par Julien, qui est là depuis assez longtemps dans le club. Voilà, à quel poste tu évolues du coup sur le terrain?
Moi, j'ai fait beaucoup de postes parce que j'ai changé de physique après mon séjour de 2 ans aux États-Unis. J'ai commencé corner, qui était un peu à l'époque et ça a bien changé depuis le poste fourre-tout entre guillemets. Quand on savait pas où mettre quelqu'un, on le mettait là. Parce que j'avais pas du tout, enfin je voilà, quand je faisais 50 kilos tout mouillé grosso modo et après on m'a passé receveur parce qu'il fallait plus de qualité athlétique entre guillemets et quand je suis parti je faisais 70 kilos je crois, je suis revenu j'en faisais 94, donc sacrée marge.
Ouais.
Et donc là je suis passé linebacker et je fais ce poste depuis maintenant 3 ou 4 ans, ouais ça va être ça, 3 ou 4 ans, hein. Qui est en gros celui qui va piloter la défense, en gros il se retrouve entre, il y a trois lignes défensives en défense au football américain, il y a les defensive linemen, derrière eux il y a les linebackers et derrière eux il y a ce qu'on appelle les DB qui vont être cornerback, safety, voilà. Et moi je me retrouve au milieu de ça, il faut que je dise à tout le monde, surtout parce que j'ai aussi un poste de coordinateur défensif cette année.
Okay.
faut que je dise à tout le monde ce qu'ils vont faire au début du jeu, à quoi faire attention, même si vu qu'on a beaucoup de personnes d'expérience en défense, il y a énormément d'autonomie aussi, ce qui est très pratique parce qu'être joueur et coach en même temps, c'est extrêmement compliqué.
Ouais, coordinateur, c'est vraiment du coup un rôle, on va dire, de staff en plus de ton rôle de joueur.
C'est ça, exactement. Et comme j'ai dit, c'est extrêmement compliqué de faire les deux choses en même temps. Et c'est pour ça que je remercie nos joueurs en défense, même si on n'a pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir. je remercie nos joueurs en défense d'avoir énormément d'autonomie. ouais. sur ça. Je dois pas toujours être derrière eux à corriger. Ils savent, ils ont aussi beaucoup de recul sur ce que eux ils font.
Ouais.
Et ils savent si quand ça a pas été bien, quand ça a été bien, etc., etc. C'est d'autant plus facile quand on a des joueurs comme Loïc qui ont énormément d'expérience. Et on va même pas commencer notre phrase, qu'ils savent déjà ce qu'ils ont fait de mal.
Ouais.
Donc c'est très pratique sur ça.
Très bien. Au niveau du coach, est-ce que c'est toujours Nelson ou
non? En fait, on a le club a décidé pas on, mais le bureau a décidé que parce que Nelson est salarié du club et que le salarié du club devait être orienté vers les sessions les plus porteuses du club, c'est-à-dire les sections jeunes.
Okay.
Et donc il est devenu coach jeune.
Très bien. On rappelle Nessam Bernardes, donc ancien coach de l'équipe 1 qu'on avait reçu
moult fois,
un habitué de l'émission
depuis les
sûrement
débuts
l'un des invités les plus récurrents de Génération Sport et même peut-être de Quoi de Neuf dans le dojo. Peut-être même
peut-être sur la fin de vie de Quoi de Neuf. Ouais,
exactement. Loïc, pour toi, quel poste tu occupes, pardon?
Eh bien moi, j'occupe la même escouade que Julien, mais j'ai la chance de jouer des deux côtés du ballon.
D'accord.
Donc ils m'ont donné cette opportunité et je joue en défense sur le premier rideau défensif en tant que D-line et de l'autre côté, je suis porteur de ballon.
Très bien. Et pareil, est-ce que ça a pu évoluer dans ton parcours? Parce que tu le disais, tu as beaucoup d'expérience. Tu as pu évoluer de poste ou pas?
J'ai commencé en attaque, donc moi j'ai une préférence très, très, très orientée pour l'attaque. J'ai toujours joué running back, donc le dernier rideau en offense. Et je prends plaisir quand même à passer en défense parce que je suis... avec le poids des années bien plus vieux et je prends du fun parce que c'est quand même une escouade dans laquelle on s'entend bien et franchement l'équipe est top.
Ah ouais, justement c'est intéressant. Comment t'as ressenti l'ambiance du club? T'as été accueilli comment?
J'ai été plutôt bien accueilli. Bon, je suis resté sur la réserve dès le début et j'ai été très simplement intégré et me voilà regarder ici avec vous à l'émission.
Bah parfait.
Justement tu connaissais l'équipe. De base pour avoir joué contre eux déjà avant ou
non, je n'avais jamais
voilà comme ça les résultats.
Je savais qu'en venant m'installer dans la région, il y avait un club et ça comptait pour beaucoup pour moi de continuer de jouer au football américain et Angers lorsque je suis arrivé dès mes premiers jours, je suis venu directement m'entraîner et m'essayer. Mais je savais que j'allais commencer et m'inscrire dans la saison 2024-2025.
Parce qu'il faut rappeler que c'est vrai que le football américain dans la région parisienne est hyper développé comparé à d'autres régions.
Oui, c'est beaucoup plus dense, donc on a beaucoup plus de clubs que dans la région Pays de la Loire, Maine-et-Loire. Je découvre, je rencontre des clubs contre lesquels je n'avais jamais joué et c'est ce qui rend le truc top.
Ouais, ça te permet de découvrir autre chose.
Exactement. Mais on a un club bien structuré. Franchement, ouais. L'investissement joue pour beaucoup.
Très bien. Ok, très intéressant. Et pareil, est-ce que la saison a commencé?
Oui, la saison a commencé depuis désormais un bon mois.
Okay.
Alors pour nous...
Et alors
alors Alors, on partait...
Alors, parlons de la saison dernière.
Ouais, on va éviter... surtout que pour moi, elle a été courtée la saison dernière à cause d'une grave blessure au genou.
Ok.
Mais cette année, on partait confiant et je pense qu'on s'est fait vite remettre à notre place sur ce qu'on appellera une erreur de parcours contre Laval, qui est un club pour lequel j'ai le plus grand respect du monde parce que c'est vraiment un club de passionnés pour le coup, qui est tenu à bout de bras par des passionnés. Vraiment, je pense que bon, on enlèvera le terrain dans cette donnée. Mais je pense que Laval est un club exceptionnel pour commencer le foot, oui, vraiment. Parce que c'est tenu par des passionnés à bout de bras, tout comme les Angers. Attention, ouais, oui, hein, mais vraiment pour la dimension que peut avoir la ville de Laval, avoir un club comme ça, c'est une chance exceptionnelle.
Pour les Mayennais qui nous écoutent, s'ils ont envie d'aller à Laval,
c'est ça. Mais même pour le Flag, hein, ils sont extrêmement développés. Ils ont les trois sections comme nous, on peut l'avoir. Donc petite pub pour Laval, hein. C'est tout à fait mérité pour eux.
Et du coup, donc il y a eu cette défaite contre Laval, il y a eu d'autres résultats.
Défaite inattendue, je dirais, mais qui nous a permis de remettre les choses en place et de calmer les ardeurs de peut-être certaines personnes. Ensuite, on a reçu Brest, qu'on a corriger gentiment, je dirais. voilà, parce qu'on s'attendait à un match difficile, physique, parce que Brest est connu, bien sûr, pour avoir du poids dans son effectif, et ça a été le cas. Ça a été un match très physique, pour le coup, mais dont on est sorti vainqueur avec 0 point pris en défense et 16 points en attaque, quoi.
Ouais.
Peut-être un manque de finition, peut-être encore en offense, mais ça a été relevé et c'est en train d'être corrigé parce qu'on a eu beaucoup d'occasions d'alourdir plus que ça le score. Ouais. Et après c'est normal, l'offense c'est quelque chose qui est extrêmement dur à mettre en place, qui demande beaucoup plus de travail qu'une défense, d'autant plus qu'en défense on a énormément de joueurs d'expérience, comme j'ai déjà pu le dire. Ouais. Donc il y a des choses qui sont comprises beaucoup plus rapidement.
Très bien.
Et enfin, ce week-end, nous avons joué contre Nantes, le derby.
Le derby.
Le derby. Nantes s'était amusé à beaucoup le teaser sur leurs réseaux sociaux et ils ont fini, ils ont perdu.
voilà.
Enfin.
Voilà. Avec ce petit jeu de va-et-vient sur réseau, dont moi, je suis pas un fanat des réseaux, donc j'y participe pas vraiment, mais c'est toujours très agréable à regarder de loin.
Ouais, quand on gagne surtout.
Voilà, surtout quand on gagne.
Après, tant que ça reste bon enfant, c'est ça.
Oui, exactement. Moi, du moment que ça reste bon enfant, après, la notion de bon enfant au football est un peu compliquée à trouver, je dirais. surtout pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas l'habitude de trash talk, contrairement à mon ami à ma droite. mais il le fait proprement, c'est le plus important.
Je te remercie de le souligner.
Ça fait partie aussi de la culture américaine.
Oui, exactement. Finalement. Moi, je suis plus à rester dans l'ombre, j'ai envie de dire. Mais Loïc le fait extrêmement bien et je suis très content de l'avoir pour ça aussi.
On soupçonne pas comme ça, mais mais c'est important.
Non, mais vraiment, Loïc a cet effet... d'augmenter la fatigue psychologique des adversaires très rapidement.
Ça marche. Et vos objectifs sur la saison ?
Play-off, tout simplement. Play-off. Surtout que par la configuration des poules actuellement, fait qu'on va jouer les adversaires de notre poule qui sont Laval et Nantes deux fois en aller-retour. Et après, on va croiser avec la poule Bretagne pour faire un seul match contre eux.
Très bien.
L'ogre reste Rennes. Qui est dans deux semaines, bien sûr, mais on part confiant et les battre, ce serait le point d'orgue de la saison, j'ai envie de dire, parce que ça reste un adversaire qui a été extrêmement compliqué ces deux trois dernières années, extrêmement physique, vraiment, c'est pas pour rien qu'ils ont été en play-off plusieurs années d'affilée. Ils ont une ligne, ils ont beaucoup de personnel à gros gabarit. Et ligne défensive et offensive, et oui, ça va être le point de repère de la saison, comment on aborde ce match et comment on le termine.
Il va falloir y bouger des montagnes, du coup.
Exactement, ça va être, même si Rennes, ça reste très plat, il va falloir aller bouger des montagnes parce que...
bouger des Bretons, en tout cas.
Ouais, bah on l'a fait contre Brest, après Rennes, c'est un autre client...
c'est d'autres Bretons.
Beaucoup plus sérieux que ne peut l'être Brest.
Très bien. Écoutez, on vous souhaite évidemment tout le bonheur pour cette saison. Rapidement, un mot aussi de Super Bowl, puisque à la base, on va dire que c'est un peu le rendez-vous annuel. C'est que on invite un peu pour avoir une expertise par rapport à ça. Et puis, c'est toujours l'occasion de parler du club. Je crois savoir que chaque année, le club justement crée un peu l'événement autour de ce Super Bowl du côté d'Angers. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui a été organisé?
Alors cette année, il y a eu des difficultés d'organisation qui ont amené à pas avoir d'événement sur ce point-là. Mais après, on s'est, chacun s'est retrouvé en petits groupes ici et là. Voilà, avec mon cher ami à ma droite qui a tapé sa meilleure sieste sur mon tapis. Ah. Voilà, un match qui opposait les Chiefs aux 49ers, les Chiefs qui étaient là pour une raison qu'on ignore, avec une saison très positive pour le coup, enfin pour eux, ils ont fini avec un bilan extrêmement positif, mais des matchs qui se jouaient, ils gagnaient, on sait pas trop comment, pour des matchs qu'ils devaient perdre, vraiment, il y a au moins 5 ou 6 matchs de leur saison régulière qu'ils auraient dû perdre et qu'ils ont gagné. On appellera ça le script NFL, on appellera ça la chance, chacun choisira. Mmh. Voilà. Et contre une équipe des 49ers qui produisait du beau jeu toute la saison, à part 2 ou 3 matchs où ils ont clairement méjoué, mais qui produisait un jeu mais si agréable à regarder, que ce soit en offense, en defense, ils ont des armes partout. En fait, c'était une équipe qui était faite, qui était vraiment faite pour gagner cette année. Et le stress des premières fois sur le Super Bowl, ça, ils ont dominé. Et puis, arrivé, bah, comme les Chiefs toute cette saison, ils ont gagné, on ne sait pas comment. Voilà, okay. sur de nouvelles règles de prolongation qui avant cette année en play-off sur les prolongations ou même en saison régulière le premier à marquer gagnait et l'autre avait pas le droit d'avoir la balle. Maintenant ça a changé, ils avaient chacun une possession et puis et le match continuait si un des deux marquait pas. Mais voilà, ça reste un mystère pour moi parce que vraiment les Chiefs sont pas produits de jeu, des receveurs qui droppaient des balles tout le long de la saison, comme par miracle se sont trouvés des mains sur ce match-là. Donc vraiment une victoire, okay. un Super Bowl qui restera peut-être dans les mémoires parce que ça restait un beau match, mais qui précède beaucoup d'autres matchs bien meilleurs que lui.
Très bien. Merci aux analystes qui étaient très très approfondis.
Ah puis ça commence à devenir un classique.
On sent la passion hein, vraiment. Bien merci à vous quatre d'être venus dans l'émission. Peut-être qu'on va rappeler également où se situe le club. Mm-hmm. Donc vous entraînez à la Baumette si je dis pas bêtise.
Non, ça c'est stade de Marcenolo.
Marcenolo, pardon. Oui. Enfin,
désormais en plus quelques années.
Ça c'était il y a quelques années.
Je confonds avec le score. Donc oui, Marcenolo qui a une nouvelle tribune en plus.
Ouais, c'est ça.
Devient de plus en plus un bel écrin quoi.
Oui, exactement. C'est encore très venteux. On attend la possible construction d'établissements scolaires ou autres sur le champ d'à côté.
Pour, ça commence à bien pousser dans le coin.
C'est ça, exactement. Ouais. Pour casser cet effet de vent, parce que quand ça souffle, ça fait pas semblant.
Ouais.
Mais sinon, ouais, c'est vraiment un très bon terrain. On remercie la mairie pour ces installations, hein, tout simplement, parce que pour avoir fait la tournée de plusieurs clubs dans la région et ailleurs. Que ce soit vestiaire, terrain et installation, on a été très gâtés.
Pour ok, le coup. Très bien.
Ah, bah, c'est toujours bien pour mettre son identité aussi.
Exactement. Après, on le partage avec beaucoup d'autres sports aussi, mais c'est tout à fait logique dans une ville comme Angers, aussi sportive qu'Angers.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Elisa, Loïc, Thomas et Julien d'avoir été avec nous dans cette émission de Génération Sport. On rappelle donc l'étoile en Angers avec la section cheerleading, flag et football américain. C'est vrai qu'il est 57, on va pas pouvoir trop parler de Ligue des Champions, mais voilà, rapidement, chers auditeurs, pour vous donner un peu la composition du Paris Saint-Germain, avec donc Barcola, Mbappé, Dembélé titulaire, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery au milieu de terrain, une défense avec Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo également, Hakimi et Donnarumma dans les buts. Rapidement, Cédric, avant de laisser la main à Imaginaire, un petit prono sur ce match. Prendre du score ou si tu veux juste pronostiquer le qualifier, c'est comme tu veux.
Bah, pour moi, il faut aller chercher le 2-0. On n'est pas encore à l'abri de se faire attraper.
Pas pour le PSG.
Pour le PSG, oui, oui. Ah oui, non, on soutient les clubs français quand même.
Évidemment.
Mais ouais, au vu du premier match, je pense qu'il va falloir être sérieux et aller marquer. Hein. Je pense que la différence de but peut avoir son importance.
Très bien. C'est match retour.
Oui, mais je veux dire, si tu gagnes 1-0, ce sera compliqué, tu vois.
Ok.
Pendant les 90
minutes.
Ah oui,
c'est ça, ok, très bien. Au cours du match. Bien, merci Cédric pour ce petit point PSG. Le match va commencer dans 2 minutes. On va surtout laisser la main imaginaire pour tout, pour tous les passionnés, les auditeurs de cette émission. On va donc vous laisser et on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Le jour où on m'a dit, il va falloir